Le quart d'heure assurance avec les agents d'assurance, des femmes et des hommes proches de vous, proches de chez vous. Jérôme Debardis.
Alors qu'une vague de froid touche la région et même peut-être de la neige, Jérôme Debardis est avec nous. Bonjour.
Bonjour Jonathan, bonjour à tous.
Alors vous avez bravé froid et vent pour venir nous parler justement de neige et
oui,
de ses conséquences.
Voilà, la neige tombe actuellement sur certains massifs montagneux et pour ce qui concerne nos auditeurs, particulièrement les Ariégeois, je vous précise que le col de Port est fermé. Voilà.
Alors, ça c'était le point météo trafic voilà. Par Jérôme Debardis. maintenant, la neige tombe, c'est bien pour
oui.
Les domaines, c'est bien pour ceux qui veulent aller skier,
oui.
Mais c'est peut-être moins bien pour ceux qui subissent ces chutes de neige.
Voilà.
Alors, et ça peut engendrer beaucoup de choses.
Ah, tout à fait. En cas de chute de neige importante, il peut y avoir notamment des dommages aux bâtiments. Et que se passe-t-il en matière d'assurance ? Est-ce que mon contrat d'assurance multirisque habitation me couvre en cas de dommages causés par la neige ? Voilà la question qu'on se pose aujourd'hui.
Moi, la première chose que j'ai faite quand j'ai vu ça, j'ai mis assurance neige.
Oui.
Et alors ça me sort assurance ski.
Ah oui, ça c'est un autre sujet, on en parlera
voilà.
Peut-être si vous voulez. Mais aujourd'hui,
du coup, est-ce qu'il y a une assurance qui protège de ce cas spécifique ? De ces dégâts de la neige. Parce
oui.
que la neige, il y a deux choses. Il y a le poids que ça fait quand ça tombe
oui.
et l'humidité que ça peut engendrer une fois que ça fond.
Exactement.
Alors, et les inondations.
Oui, bravo. C'est exactement le déroulé d'un sinistre classique poids de la neige. Et alors, le poids de la neige est systématiquement prévu dans les contrats d'habitation. Voilà, vous n'avez pas de manœuvre particulière à faire. Encore faut-il que votre contrat ait été souscrit convenablement, c'est-à-dire que vous ayez fait des déclarations exactes. Nombre de pièces, superficie, usage de la maison, location, propriétaire, ça, tout ça c'est du classique. Mais si tout ça est effectivement conforme, alors vous êtes assuré au titre d'une garantie qui s'appelle tempête, grêle, neige.
Ah d'accord, donc ça
c'est la même.
C'est inclus avec les autres problèmes qu'on peut vivre dans
les habitations. Absolument, absolument. Tempête, grêle, neige. Et donc vous n'avez pas à attendre. Comme beaucoup de gens le pensent, une déclaration particulière du gouvernement ou un décret de catastrophe naturelle. La tempête, la grêle et la neige ne sont pas des catastrophes naturelles. Elles sont naturellement garanties par votre contrat d'assurance habitation.
Naturellement garantie qu'on habite à Toulouse ou à Aix-les-Thermes en Ariège.
Absolument.
Il n'y a pas de spécificité
alors,
par rapport au fait que les gens habitent...
Non, pas du tout. C'est la mutualisation. Hein. C'est le principe de la mutualisation. Alors maintenant, on peut imaginer effectivement un cabanon en bois à 2500 mètres d'altitude. Là, il faut peut-être poser la question à son assureur de savoir ce qu'il fera si un jour, par malheur, on ramasse une avalanche ou un poids de la neige trop important.
Le poids de la neige, peu importe, est-ce qu'il y a des limites de poids de neige ou est-ce qu'à partir de dès que ça peut tomber ?
Ah non, la limite, c'est le dommage causé. Alors là, effectivement, par rapport à la tempête ou au vent où on caractérise une vitesse de vent, là, en l'occurrence, on caractérise pas le poids, la densité de la neige au mètre carré. On dit simplement, la neige, le bâtiment a été endommagé ou le toit s'est effondré sous le poids de la neige.
D'accord.
C'est suffisant pour déclencher la garantie.
Si on subit un sinistre, un dommage, comment on le déclare ? Est-ce que c'est comme chaque chose ? Parce que la neige fond et au final, on ne pourra pas prouver finalement. Voilà. Comment on fait pour le déclarer ?
D'abord, on déclare rapidement à l'assureur le sinistre. Alors, on a plusieurs moyens de déclarer un sinistre. Hein. On peut le faire par lettre commandée, on peut le faire par courriel. Aujourd'hui, c'est accepté. Et puis, on va prendre des mesures conservatoires le plus possible. C'est-à-dire qu'on va éventuellement bâcher les meubles, on va prendre des photos, on va, pour gagner du temps, commencer à chercher les factures de certains biens endommagés qu'on va trouver. Voilà, c'est assez classique. C'est un sinistre ou c'est un dommage classique.
Le fait que la neige a disparu au bout d'un moment.
Ah oui, non, elle disparaît, mais enfin quand même, d'abord, quand vous prenez une photo d'un toit effondré, ça se voit. Et ensuite, effectivement, les dommages de mouille consécutifs à l'endommagement d'une maison sont pris dans la garantie de tempête, grêle, neige.
C'est exactement ce que je vais vous poser comme question.
Et voilà, oui, on se retrouve. Et même si, par hasard, ce qui est assez rare, mais même si par hasard votre contrat ne comporte pas de garantie dégâts des eaux, vous voyez, il n'y a pas de garantie des dégâts des eaux. Eh bien, les dommages de mouille consécutifs à l'endommagement du bâtiment sont pris en charge quand même parce qu'ils relèvent de la garantie poids de la neige.
D'accord. Donc tout ce que va engendrer l'humidité due à la neige va être pris par cette garantie.
Oui, encore faut-il parce que
alors que ça pourrait finalement passer en dégâts des eaux au final puisque
oui, mais enfin d'abord je vous dis c'est pas de la garantie des dégâts des eaux. Les dégâts des eaux c'est quand même la rupture d'une canalisation, oui. C'est l'eau qui passe à travers c'est dû à l'eau et puis ça passe à travers un toit qui n'est pas endommagé, enfin qui est endommagé parce qu'il laisse passer l'eau, mais ça ne va pas plus loin que ça. Là, on parle vraiment de la garantie mouille après un dommage au bâtiment. Alors, petite précision également, on dit toujours qu'il faut faire une déclaration dans un délai précis. Effectivement, il y a, comme pour le reste des dommages, un délai de 5 jours pour faire sa déclaration. Je précise, je répète à chaque fois que ce délai de 5 jours, quand on nous explique que les assureurs sont très gentils, ils vont le repousser à un mois pour permettre aux gens de prendre le temps, etc., c'est inexact. En fait, la jurisprudence est très claire. Le délai qu'on impose est un délai plus formel qu'autre chose, dans la mesure où l'assureur doit prouver que si on a dépassé ce délai, on lui a causé un dommage. Et durant toute ma carrière, je n'ai jamais vu un seul, et j'en ai réglé quand même quelques-uns,
oui,
un seul sinistre refusé pour retard dans la déclaration. Alors oui, on peut imaginer, c'est pas l'esprit quand même, d'abord c'était pas le mien, ni celui des compagnies que j'ai eu l'honneur de représenter, mais dans le fond... on peut comprendre ça, si vous voulez. Les rares cas où ça se passe, c'est parce que l'assureur n'a pas pu vérifier ce qu'on lui dit et on lui déclare quelque chose et rien ne le prouve. Il n'y a même pas une photo, il n'y a rien du tout. Ça veut dire qu'on a dépassé le délai et donc on n'a pas pu vérifier les dommages. On n'a pas donné à l'assureur la chance de vérifier les dommages qu'il va être amené à payer.
Voilà, donc si on veut se renseigner, on va sûrement tomber des fois sur la garantie TGN, la garantie tempête, grêle-neige.
Exactement.
Et qui me semble a été transposée au code des assurances par les articles R128.1 et R128.4.
Ouh, vous êtes pointu.
Oui, c'est ça, merci Internet. voilà, merci beaucoup Jérôme de Bardis pour nous avoir dit tout ça. Voilà,
bonnes vacances à la neige à tous.
Oui, voilà, bonnes vacances à la neige et attention si vous allez skier. On parlera sûrement des assurances. En ski petit peu plus tard.
À la semaine prochaine.
C'était le quart d'heure assurance avec les agents d'assurance. Des femmes et des hommes proches de vous, proches de chez vous.